Timothée chapitre 2, à partir du verset 19. Jusqu'au verset 22 de Timothée, chapitre 2, verset 19, jusqu'au verset 22.
De Timothée, chapitre 2, verset 19
à 22.
De Timothée chapitre 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout.
Amen.
Avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent.
Amen.
Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité.
Amen. Amen.
Verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et en pierre. Les uns sont des usages d'or, les autres des usages de
Si donc quelqu'un se purifie de ceci,
Amen.
Il sera un vase à l'honneur, à honneur.
Amen.
Utile au maître.
Amen.
Préparé pour toute bonne œuvre.
Amen.
Amen.
Mais fuis les convoitises de la jeunesse.
Amen.
Et poursuis la justice.
Amen.
La foi.
Amen.
L'amour.
Amen.
La paix.
Amen.
Avec ceux qui invoquent le Seigneur
d'un cœur pur. Amen.
Amen. Amen. L'unité est quelque chose qui est recherché par l'homme, n'est-ce pas? Dans le monde, l'unité est un thème ou un sujet qui est très très recherché. On veut être un, on veut l'unité, n'est-ce pas? Du plus grand, n'est-ce pas, on peut envisager le secteur le plus mondial, n'est-ce pas, même les Nations Unies, n'est-ce pas, c'est une tentative d'unir les nations afin qu'il n'y ait plus de guerre. Enfin, c'était la réponse, n'est-ce pas, à la Première Guerre mondiale, n'est-ce pas? Donc sur le plan global, jusqu'au plan le plus privé, on peut dire jusqu'à la famille, n'est-ce pas, qui est peut-être l'unité, enfin l'entité, n'est-ce pas, la plus petite, on cherche l'unité. N'est-ce pas, dans les écoles, dans les universités, dans les compagnies, dans les entreprises, partout. Et dans la Genèse 11, les versets que nous avons lus ce matin, l'homme cherchait l'unité. Ils étaient un et ils voulaient rester un. Donc on parle beaucoup de l'unité et Dieu aussi veut l'unité. Mais il veut l'unité selon certains critères. Et les critères sont Dieu lui-même. Dieu est un. Donc tout ce qu'il fait est un. Et tout ce qui est produit doit être un. Mais le problème, c'est que l'homme, comme nous l'avons vu ce matin, l'homme étant créé selon l'image de Dieu, il a envie d'être un, de produire quelque chose de Dieu, mais pas à la manière de Dieu. Donc, quand Babel, quand ils ont érigé la tour de Babel, c'était dans l'unité. N'est-ce pas? C'était un effort uni. Mais Dieu ne l'a pas approuvé. Parce que ce n'était pas l'unité selon Dieu. Donc, même parmi le Christ, n'est-ce pas, nous, les croyants, chrétiens, nous parlons souvent de l'unité. Voilà. Mais il faut toujours regarder l'unité selon Dieu lui-même. Donc, Dieu, l'opération de Dieu est toujours un. Et l'opération de l'homme doit aussi être un, mais correspondant à Dieu. Alors, ce qui est arrivé, c'est que, n'est-ce pas, comme Jéroboam, il voulait être un, il voulait que son royaume soit un, uni. Alors il a essayé de unir son royaume, n'est-ce pas? Mais pour ses propres, selon ses propres besoins, selon sa propre ambition. Alors, ce qu'il a produit était quelque chose de un, mais pas selon Dieu. Mais Dieu, les versets que nous avons lus, Deutéronome chapitre 12, n'est-ce pas? Dieu avait dit que c'est dans le lieu que moi je choisirai. C'est là où vous allez construire. C'est là où vous allez m'adorer. Le lieu que moi j'ai choisi de mettre mon nom. Et dans l'Ancien Testament, Deutéronome, avant l'entrée dans le bon pays, Dieu n'a pas précisé Jérusalem. Dans ce chapitre, il n'a pas dit Jérusalem, n'est-ce pas? Mais lorsque les enfants d'Israël sont entrés dans le bon pays, ça, c'était le lieu que Dieu avait choisi. Donc, toute l'adoration de Dieu doit être selon l'ordre de Dieu. Comment Dieu veut que je l'adore? Et ça, c'est quelque chose que nous ignorons souvent. Jéroboam, il a adoré à sa façon. Et de lui, de son exemple, et beaucoup, pas seulement deux centres, éventuellement, sous chaque arbre vert, n'est-ce pas, on a érigé quelque chose. Les hauts lieux, partout. Moi, je vais adorer Dieu, donc j'ai le droit d'ériger quelque chose. N'est-ce pas? Ben, il suffit de regarder partout. N'est-ce pas? Moi, je pense que je vais proposer quelque chose. Et ça, c'est ma tour de Babel, on peut dire. N'est-ce pas? C'est avec mon nom. Et voilà, n'est-ce pas? Voilà tes dieux, ô Israël, qui, n'est-ce pas, qui vous a, n'est-ce pas, voilà vos dieux, Israël, qui vous ont amené de l'Égypte. Tout le monde a la liberté, tout le monde a le droit. On est trop libre. On veut exercer son droit. Et Dieu le permet, parce que Dieu est tellement grand, il est très grand. Il n'est pas comme le Dieu d'autres religions, n'est-ce pas? Où il va venir pour empêcher, pour Non, Dieu permet. Vous voulez faire ça? Allez-y. N'est-ce pas? Je ne vais pas vous empêcher. Vous avez le droit. Mais est-ce que ça, c'est selon le cœur de Dieu? N'est-ce pas? Donc, tous ceux qui veulent vraiment connaître Dieu, la volonté de Dieu, doivent venir à ce point où ils cherchent Dieu dans leur adoration. Dieu, est-ce que c'est comme ça que vous voulez que je t'adore? Ce n'est pas une question de salut, parce que le salut, n'est-ce pas, c'est par la grâce du Seigneur, c'est par sa mort sur la croix, par le sang qu'il a versé. Tous ceux qui croient en lui, n'est-ce pas, tous ceux qui invoquent son nom seront sauvés. Donc, tout le monde peut recevoir, peut être sauvé. Et même Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais sauvé pourquoi? Sauvé pour quel objectif? Et c'est ça la question. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce que je suis sauvé? Et si je comprends un peu l'objectif, comment est-ce que je peux vivre ma vie pour réaliser cet objectif? Vous voyez? Donc, la vie chrétienne commence avec le salut, mais elle ne se termine pas là. Ah, c'est là où elle commence. Mais ça prend toute une vie de connaître le Seigneur et de connaître sa volonté. Donc, comment nous adorons? Où nous adorons? De quelle manière? Dans quel lieu? C'est très important. Dieu y fait très attention. Dieu précise, n'est-ce pas? Et il permet à l'homme d'agir comme l'homme le veut, comme l'homme veut, n'est-ce pas? Jéroboam est un très bon exemple. Et de son exemple, même Jéroboam est devenu un exemple, n'est-ce pas, celui qui a fait pécher Israël. C'est celui qui les a entraînés dans le péché, comme aucun autre roi. Il y avait plusieurs rois qui étaient mauvais, n'est-ce pas, qui étaient méchants. Ils ont commis des crimes, ils ont fait des choses atroces. Mais Jéroboam, il a offensé Dieu lui-même. Il a même changé la nature de l'adoration de Dieu. Et ça, c'est ce que la Bible appelle l'iniquité. Vous comprenez? L'iniquité, la différence entre l'injustice ou le péché. Et l'iniquité, le péché, c'est une offense contre Dieu, une offense contre l'homme. N'est-ce pas? Une transgression. Mais l'iniquité concerne Dieu lui-même, concerne les choses sacrées. Donc, normalement, qui est responsable de l'iniquité? Ce sont ceux qui touchent les choses de Dieu. Pas le peuple commun, pas les païens. Bah, eux, ils ne connaissent pas Dieu. Et donc, comme nous, n'est-ce pas, avant, nous étions morts dans nos péchés et dans nos offenses. Mais l'iniquité touche Dieu lui-même, les choses sacrées. Les sacrifices. Qui est responsable? Ce sont les sacrificateurs. Ceux qui se donnent au Seigneur. N'est-ce pas? Ceux qui se sont consacrés au Seigneur. c'est eux qui sont responsables. Voilà pourquoi Paul dit dans 2 Timothée que celui qui invoque le nom du Seigneur, il s'éloigne de l'iniquité. C'est pas ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est ceux qui connaissent le Seigneur. Ils invoquent le nom du Seigneur. Donc voilà l'avertissement pour nous. Dieu veut un témoignage. Il veut un témoignage uni. Un témoignage comme un vase corporatif. Mais selon lui, selon ses critères. Et donc, le commandement était très clair. Lorsque vous rentrerez dans le bon pays, vous m'adorerez là, au lieu que moi j'aurais choisi, où je mettrai mon nom. Nul autre lieu. Et vous m'apporterez vos sacrifices, vos holocaustes, vos offrandes, pas là où vous voulez, mais là où moi j'ai choisi, le lieu que moi j'ai choisi. Alors, les enfants d'Israël, n'est-ce pas, une famille par exemple, n'est-ce pas, quand c'était l'heure de partir pour Jérusalem, une famille aurait pu dire, ah, cette année, nous, on n'a pas envie, on a trop de choses à faire. Les enfants, le travail, on est fatigué. Alors, on va rester à la maison. Mais, on va continuer à adorer, n'est-ce pas? Alors, comment? On va ériger quelque chose à la maison. Et on va continuer à adorer Dieu. Pas mal, ça. Ben, qu'est-ce que vous diriez? Non, mais c'est pas que ils veulent oublier Dieu. Non, ils veulent se souvenir de Dieu. N'est-ce pas? Mais ils n'ont pas pu aller avec les autres. Donc, n'est-ce pas? Au lieu de rester à la maison sans rien faire, on va construire quelque chose. Bon, Dieu semble très sévère. Pourquoi est-ce que là, pour nous, ça semble assez bien, n'est-ce pas? C'est un bon cœur. Un bon cœur. Le problème. Quel est le problème? Le problème, c'est que quand on adore Dieu à sa manière, le danger, c'est que il y a quelque chose d'autre qui puisse venir. Et voilà ce que Dieu a. Il a précisé. Vous n'adorerez pas là où vous voulez, parce que vous risquez de créer vos propres dieux. Ce que vous adorez deviendra quelque chose de votre choix. Et ça va remplacer le vrai Dieu. L'idolâtrie. Vous voyez? Ah, mais non! Moi, j'aime Dieu. Moi, n'est-ce pas? Je vais adorer Dieu. Oui. Mais l'homme, nous, on ne nous connaît pas. On ne se connaît pas, n'est-ce pas? On ne se connaît pas. Notre nature veut toujours remplacer Dieu par quelque chose qui nous convient. quelque chose qui nous plaît. Vous voyez? Et donc, quand... Amen. Amen. Bonjour. Quand je peux suivre mon plaisir, je peux suivre la façon dont moi j'aime adorer Dieu, ce qui va résulter, le résultat, souvent, sera quelque chose selon mon goût, selon ma nature, selon ma préférence, qui va exclure quelqu'un d'autre. Parce que, n'est-ce pas, quelqu'un d'autre, il n'est pas de la même nature, il n'est pas du même avis, il n'a pas le même goût. Alors moi, je crée quelque chose selon mon goût. Et ça devient, je m'excuse, ça devient mon idole. Ah, mais non, c'est pas l'idolâtrie, c'est Dieu. Oui, il y a Dieu, mais il y a quelque chose de moi. Il y a quelque chose de mon choix. Ah. Et donc, Dieu entre nos mains. C'est comme si, je m'excuse de parler comme ça, Dieu entre dans nos mains, c'est comme de l'argile. On peut, comme un enfant, on peut le façonner, n'est-ce pas? Là, pour nous faire, pour en faire une image, mais c'est Dieu, c'est, mais pour en faire une image selon notre gré. Et le problème, c'est que Dieu le permet. Dieu ne nous frappe pas. Donc, voilà. Alors, pendant longtemps, j'ai lutté avec ça. Comment est-ce que les enfants d'Israël pouvaient croire, comme tu l'as dit, n'est-ce pas? Voilà, ils ont érigé des veaux d'or. Des veaux d'or. Comment est-ce qu'ils ont pu faire ça? Après avoir expérimenté, après avoir... n'est-ce pas, vécu pendant le règne de David, même de Salomon, mais enfin, Salomon on peut comprendre, mais ils avaient expérimenté, ils avaient témoigné, ils avaient écouté les témoignages, ils avaient les exemples des frères et des sœurs qui ont suivi le Seigneur, ils ont vu, ils ont lu, ils avaient les cinq livres de Moïse, n'est-ce pas, à ce moment-là, ils avaient lu, ils avaient écouté tout ce que Dieu avait fait. Comment est-ce qu'ils ont pu dire, voilà, on va adorer ces veaux d'or? J'ai eu du mal à comprendre ça, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que je me sois placé dans la situation, et la situation actuelle, n'est-ce pas? Et pour considérer même ma propre situation, que quand, ok, pour donner un exemple pratique, quand je décide de me rassembler avec tel ou tel frère qui sont selon mon goût, qui font la même chose que moi, qui ont les mêmes pratiques que moi, qui pensent comme moi, est-ce que je ne suis pas comme les enfants d'Israël? Ça veut dire que j'exclus d'autres frères qui ne pensent pas comme moi, qui sont différents de moi, qui ont des pratiques différentes. Est-ce que je n'ai pas fait de Dieu autre chose. Dieu est un. Dieu est... Il est pour tout le monde. Il accepte, il accueille, n'est-ce pas, tous ceux qu'il a rachetés. Lui appartiennent. Et moi, j'exerce mon droit, mon choix de choisir, d'en choisir certains. Tandis que Dieu les a tous choisis. Est-ce que moi, je ne me... N'est-ce pas, je ne prends pas Dieu pour en faire quelque chose d'autre. On peut dire, même un... Bon, je m'excuse, mais même un idole. Un idole. Qu'est-ce que c'est que des... Bon, un idole, c'est pas seulement les statues d'or ou les choses grotesques qu'on voit parfois dans des lieux. Non, oui. Ben, un idole, c'est tous ceux qui remplacent Dieu. Qui remplacent la nature de Dieu. Est-ce que je n'ai pas fait de Dieu autre chose? Ah. Est-ce que ça, mon choix, n'est-il pas devenu un veau d'or? De l'or, il y a de l'or, qui signifie la nature divine. Il y a de l'or. Mais il y a autre chose. Quand vous pensez au veau d'or, bon, on a l'image, n'est-ce pas, des veaux, n'est-ce pas, d'or, oui, mais spirituellement, n'est-ce pas, pratiquement, un veau d'or, c'est quoi? C'est ma manière d'adoration, ma manière, ma représentation de Dieu. Qui est quoi? Qui est une... transgression de quoi? Du deuxième, troisième commandement, n'est-ce pas? Tu ne feras aucune image, n'est-ce pas? Ni gravée, n'est-ce pas? Parce que pourquoi? Parce que l'homme, nous avons cette tendance de défigurer, de changer Dieu pour satisfaire notre besoin, notre goût, notre manière, n'est-ce pas, de vivre. Voilà, je dirais que voilà là le problème. Et Dieu le touche. Dans la parole, Dieu le touche. Voilà pourquoi il insiste. Tu m'adoreras dans le lieu que moi j'ai choisi. Alors, c'était toujours une lutte, toujours une lutte. Éventuellement, le temple a été construit sous Salomon. Le temple était là. Tout était là. Les sacrifices, les holocaustes, les sacrificateurs, l'encens, n'est-ce pas, les lévites, la loi. Mais il manquait quelque chose. C'était un temple vide, vide de Dieu. Donc, ce qui est arrivé, c'est que, n'est-ce pas, sous, il y avait la forme, la coquille. Ce que Dieu voulait, le temple était là. Mais chacun faisait ce qui bon lui semblait. Et même, c'est-à-dire ailleurs, et même ceux qui étaient rentrés, retournés à Jérusalem pour adorer Dieu, même eux, ils faisaient les choses sans Dieu, sans la réalité. Ils suivaient un système, mais leur cœur était loin. Alors, ils faisaient toutes les bonnes choses, mais leur manière de vivre contredisait leur manière d'adoration. Donc, Dieu, à travers Jérémie, a prophétisé la captivité. Puisque votre cœur est loin de moi, moi j'en ai marre, j'en ai assez de vos sacrifices, de vos holocaustes, de vos, n'est-ce pas, tout ce que vous m'apportez, je ne prends plus plaisir, je vais vous envoyer en captivité. Et n'y résistez pas, parce que ça c'est votre condition, n'est-ce pas? Et donc, éventuellement, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est venu pour amener captif les enfants de Juda. Israël, le royaume du Nord, avait été déjà capturé par les Assyriens à peu près 130 ans avant. Donc, la nation dit, le peuple de Dieu était éparpillé, dispersé, divisé, n'est-ce pas? Plus de nations, plus de temples, le temple était détruit, des holocaustes, plus d'holocaustes, plus d'offrandes, rien. Tout ce qu'ils avaient, c'était la loi, la parole. C'était ça, c'est ça leur salut, n'est-ce pas? La loi, n'est-ce pas? Ah, et on viendra à ça quand nous aborderons Esdras. Mais toutes les formes, toutes les pratiques, Dieu les leur a enlevées. C'est comme si Dieu disait, oui, tout ce à quoi vous vous fiez, ça ne vous sert à rien. Je vais l'enlever. Ah, pour que, en captivité, vous puissiez apprendre à me connaître, à vous guider. Donc, en captivité, les enfants d'Israël devaient apprendre à se vider. Parce qu'ils avaient perdu l'apparence, maintenant, ils n'avaient que Dieu. Et nous verrons ça plus tard à travers certains vases comme Daniel qui s'est préparé. Ézéchiel aussi en captivité, il y avait des vases que Dieu avait choisis, n'est-ce pas, et même d'autres qui se sont préparés pour que le peuple d'Israël puisse retourner à Jérusalem pour rebâtir la maison de Dieu. Bon, mais cet après-midi, le fardeau, c'est la Babylone. Okay. La Babylone, le Babel en nous, n'est-ce pas? Le désir de nous faire un nom, le désir d'être quelque chose, de se faire voir. Dieu veut le toucher. Et donc, voilà pourquoi nous, n'est-ce pas, la plupart d'entre nous, nous avons vu quelque chose, nous avons vu la vision de l'Église, mais qu'est-ce que c'est que la vision de l'Église? Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut une expression. Il veut un témoignage. Il veut quelque chose qui est lui-même, qu'il exprime. Et comment est-ce qu'il peut avoir ça? Il faut ceux qui lui permettent de travailler, d'œuvrer en eux. Ce n'est pas notre choix. Alors, en tant que chrétien, nous devons, la première chose, je dirais, la première chose, c'est de, encore une fois, demander au Seigneur, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Quel est, où est le lieu que toi, tu as choisi ? Le lieu d'adoration. Je pense qu'en tant que croyant, n'est-ce pas, nous avons tous expérimenté cela. Quand nous avons été sauvés, nous avons voulu nous attacher à des chrétiens. Parce que ça, c'est normal. Parce que la vie qui est en nous, la nouvelle vie, la vie divine, cherche d'autres. N'est-ce pas, comme on a vu ce matin, l'esprit touche l'esprit.
Amen.
N'est-ce pas, le Christ en nous veut le Christ dans les autres. Alors, on a cherché, c'est normal, on veut s'attacher à une communauté chrétienne, à des chrétiens, à un groupe chrétien. Mais Dieu veut nous demander, mais quel est mon choix? Qu'est-ce que moi je veux? Si nous pouvons même juste nous arrêter pour un moment, pour considérer, Dieu, que veux-tu? Où veux-tu que j'aille? Ah. Voilà, c'est... On parle beaucoup aux États-Unis de l'église de mon choix. Je ne suis pas ici. Je veux à l'église de mon choix, n'est-ce pas? Oui. Mais d'abord, l'église n'est pas mon église. C'est l'église de Christ.
Amen.
Deuxièmement, ce n'est pas mon choix. C'est le choix de Dieu. N'est-ce pas? Donc, l'Église appartient à Christ. Ce n'est pas mon Église, c'est son Église.
Amen.
Matthieu chapitre 16, n'est-ce pas, verset 18. Le Seigneur dit, je bâtirai mon Église. Mais le problème, c'est que l'Église de Christ est devenue sa propre l'Église des croyants. N'est-ce pas? Non, c'est l'église de Christ. Donc, si c'est l'église de Christ, Christ n'a-t-il pas la dernière voix? N'a-t-il pas le dernier mot? N'est-ce pas? Le dernier mot. Si ça, quelque chose appartient à lui, il a le droit. Alors moi, je dois renoncer à mon droit pour écouter, pour comprendre quel est son choix. Voilà, donc, la question reste toujours, n'est-ce pas? En tant que chrétien, où est-ce que je dois me rassembler? N'est-ce pas? Il y a même des livres écrits là-dessus. Maintenant que nous sommes chrétiens, où? Voilà. Donc, Dieu nous appelle. Dieu a appelé son peuple en captivité de retourner au lieu qu'il a choisi, de retourner à Jérusalem. C'est là où il a mis son nom. Qu'est-ce que c'est que Jérusalem aujourd'hui? C'est le terrain de l'unité. C'est le terrain de l'unité. Ce n'est pas un groupe chrétien. Ce n'est pas une église chrétienne. Mais c'est le terrain sur lequel Dieu veut être exprimé. Et quel est ce terrain? C'est le terrain de l'unité. Ça veut dire que c'est là où tous les frères et les sœurs, dans une ville quelconque, demeurent en unité. Vous allez dire, oh, ça n'existe aucun lieu comme ça. Regardez la situation autour. Oui. L'homme est libre d'exercer son choix. Et on va l'exercer. N'est-ce pas? Mais où sont ceux qui voient ce que Dieu veut, le choix de Dieu, et qui répondent à Dieu? Dieu, moi, je te réponds. Selon ta parole, tu m'as montré une voie. Je dois m'y rendre. Je n'ai pas le droit, je n'ai pas aucun choix. Je dois m'attacher aux frères. En tant que frère, qui suis-je? Je suis un frère, je suis un sauvé, un chrétien. Donc, je n'ai pas le droit de commencer quelque chose. Je n'ai pas le droit de bâtir mon église. N'est-ce pas? Parce que je renonce à moi. Je n'ai pas le droit de m'attacher à une église, à un groupe, parce que... Mais je dois te suivre. Je dois... Là où il y a des frères qui se rassemblent en unité, en tant que croyant, en tant que l'expression du Seigneur, le témoignage, c'est là où je me placerai. Ça, c'est Jérusalem. Ça, c'est, je dirais, la signification de retourner au terrain que Dieu a choisi. Donc, Babylone, spirituellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire confusion, n'est-ce pas? Confusion. Alors, même quand nous prêchons l'évangile, une question qui se soulève, qui se pose souvent, c'est pourquoi est-ce qu'il y a tant de dénominations, tant de groupes chrétiens? Si tous les chrétiens sont un, pourquoi y a-t-il tant de différents groupes? Et c'est une question qui est difficile à répondre, n'est-ce pas? C'est difficile à répondre à ces questions. Moi aussi j'ai du mal à... Mais il faut toujours venir à la parole. Il ne s'agit pas des autres. Il s'agit de nous. Il s'agit de moi. Où est-ce que Dieu veut que moi je sois? Et c'est ça la question, n'est-ce pas? Donc, tout ça, ce n'est pas pour critiquer nos frères et sœurs, parce que je ne fais pas ça. Et je ne veux pas faire ça. Et je risque de faire ça, n'est-ce pas, dans ce message. Mais je voudrais ne pas le faire. Non, nous sommes un avec tous nos frères et sœurs, mais nous ne sommes pas un avec le système, n'est-ce pas? Et donc, même la cantique que nous avons chantée, nous prenons position, n'est-ce pas? Ça veut dire que nous prenons position. Nous disons nettement que nous sommes pour le témoignage du Seigneur. Nous sommes pour l'expression unique du Seigneur. Et nous sommes prêts à nous rassembler avec tous les frères et sœurs, peu importe où ils sont. Ce sont nos frères et sœurs. Donc nous sommes un avec eux. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que c'est que l'Église? L'Église, c'est quoi? C'est tous les croyants. Mais Babylone, c'est quoi? Babylone, c'est là où les croyants existent. Mais dans la confusion. Parce que ils sont séparés. Et on nous dira, ah non, nous sommes tous un. Vous parlez avec n'importe quel chrétien, il vous dit, nous sommes un. Mais alors la question reste, mais pourquoi donc y a-t-il des divisions, des dénominations? Pourquoi? Si nous sommes un, pourquoi est-ce que moi je me dénomme? Vous voyez? Si je m'appelle Antipas, c'est mon nom. Pourquoi est-ce que je m'appelle autre chose? Pourquoi est-ce que je m'appelle par exemple Victor? Non, je ne m'appelle pas Victor. Je m'appelle Antipas. Ça, c'est moi. N'est-ce pas? Alors, si nous appartenons seulement à Christ, pourquoi est-ce que nous nous dénommons? N'est-ce pas? Autrement. Bon. Et il y a des raisons. Il y a beaucoup d'explications, n'est-ce pas? Voilà. Je n'ai pas envie d'argumenter ça. Mais le fait, c'est que quand nous nous appelons autrement, autre chose que Christ, nous devenons, c'est pas, nous faisons partie de la confusion. Ce n'est pas que nous ne sommes pas sauvés. Non, nous sommes sauvés. Nous avons le Seigneur. Chaque croyant, et je dirais chaque groupe, le Seigneur est là. N'est-ce pas? Il y a quelque chose du Seigneur. On ne peut pas. Parce qu'on nous dit, on ne va, ah, donc le Seigneur n'est pas avec nous? Non, le Seigneur est avec vous. Le Seigneur, il est le Seigneur. Donc, il est très très grand. Et, le Seigneur nous a bénis. Oui, il vous a bénis. Ça, on ne peut pas, n'est-ce pas? Mais, essentiellement, où sont ceux qui veulent vraiment suivre, trouver la volonté du Seigneur? Qu'est-ce qui satisfait le Seigneur? Oui, le Seigneur nous a bénis. Il a fait des miracles parmi nous, il a fait ça, il a fait ça. Il a envoyé ce frère pour nous prêcher, pour un message fabuleux. Beaucoup de... Oui. On ne peut pas le contester, et c'est vrai, et c'est vrai. Mais est-ce que nous sommes pour la bénédiction? Est-ce que nous sommes pour ce que le Seigneur peut nous donner? Ou est-ce que nous sommes pour le Seigneur lui-même? Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Est-ce que nous voulons le Seigneur? Ou est-ce que nous voulons le Seigneur et ce qu'il peut faire pour nous? Si nous voulons le Seigneur, ce qu'il peut faire pour nous, il y a beaucoup de choix. Il y a beaucoup de choix, n'est-ce pas? Il y a un... Comment dire, une table, grande table de variété. Vous pouvez choisir. Vous voulez la guérison? Il y a... N'est-ce pas, des groupes là qui sont vraiment, non, mais sincèrement, le Seigneur, vous allez être guéri. Vous voulez un bon message et une bonne prédication de la Bible, une bonne exposition de la Bible. Il y a des endroits où vous pouvez, n'est-ce pas? Vous voulez quoi? Vous voulez quelque chose pour les enfants? Ah, une bonne garderie, n'est-ce pas? Un bon service pour les enfants, pour éduquer les enfants, pour qu'ils connaissent le Seigneur? Il y en a, oui. Donc, et le Seigneur va les bénir. C'est très curieux, n'est-ce pas? Ah. Mais si nous ne sommes pas satisfaits, nous voulons, comme David, n'est-ce pas? Nous cherchons le Seigneur lui-même et nous ne sommes pas satisfaits. Seigneur, moi, j'ai ma maison. J'habite dans une maison. Ça veut dire quoi? J'ai mon église. Bon. J'ai ma façon d'adoration. Dieu m'a béni et il me bénit. Et j'en suis content. Ça, c'est ma maison, n'est-ce pas? Mais Dieu, toi, tu n'as pas de maison. Toi, tu habites dans une tente errante, n'est-ce pas? Une tente qui ambulante, n'est-ce pas? Ça veut dire que Dieu, où es-tu? Où es-tu vraiment? Où est ta satisfaction? Qu'est-ce qui te satisfait? Est-ce que ça te satisfait? N'est-ce pas? Des croyants, et moi, y compris moi, n'est-ce pas? Je suis là, je... Ah, Dieu, oui, tu as fait tant de choses pour moi. J'en suis le bénéficiaire, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ça qui te satisfait? Est-ce que c'est ça qui satisfait Dieu? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Où est ta vraie demeure? Si nous ne sommes pas satisfaits, nous allons chercher le Seigneur. Le Seigneur va nous répondre, va nous montrer où est sa demeure. Sa demeure est dans l'église. Sa demeure est dans l'esprit des frères et des sœurs. Ceux qui l'aiment, ceux qui sont prêts à tout abandonner, à abandonner, laisser tomber leurs choix, n'est-ce pas, leurs opinions, leur manière de penser pour suivre la volonté du Seigneur. Et donc, en tant que frère, en tant que sœur, pratiquement, je n'ai pas le droit de refuser de m'attacher à quiconque. Je n'ai pas le droit de me diviser. Je n'ai pas le droit de me séparer. Je suis frère, ça veut dire tous les croyants sont mes frères et sœurs. Ça veut dire que je n'ose pas me séparer. Je n'ose pas me dénommer. Même si eux, ils se dénomment, ça ne fait rien. En ce qui me concerne, n'est-ce pas, concernant ma position, je suis un avec tous les frères et sœurs. Alors, récemment, j'ai demandé parce qu'un frère m'a demandé, quelle est la différence entre toi et nous? Parce que toi, tu dis que tu es l'Église. Alors nous, nous ne le sommes pas. N'est-ce pas? Et j'ai répondu, ok, voilà la différence. Moi, j'accueille, je te reçois. On se rassemble. Moi, je n'ai je n'exige rien de toi. N'est-ce pas? La seule base, le seul critère, c'est que tu sois sauvé, tu sois chrétien. Et ça, c'est évident. On se rassemble. Mais toi, est-ce que tu es prêt à m'accueillir? Ah oui. On est frères. Ok. Mais, n'est-ce pas? Sur la porte ou là, il y a quelque chose. Ok. Ça veut dire que tu te dénommes, il y a quelque chose qui nous sépare. Non, 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 nous sommes tous frères. Ok, oui, d'accord. Non, mais pratiquement, ok, si on est tous frères, laisse tomber, enlève la pancarte et on va se réunir. Oui, n'est-ce pas? C'est... Non, mais c'était érigé par docteur Son, n'est-ce pas, pasteur tel ou tel, et c'est notre père spirituel. Et... Oui. Ça veut dire que c'est facile d'en parler. Nous sommes tous un. Mais c'est difficile de le vivre. Et même nous, ok, maintenant je maintenant je renverse la situation. Moi, j'ai dit à ce frère, ah oui, je te reçois. Mais est-ce que je le reçois vraiment? Je ne le connais pas bien. Alors c'est facile de recevoir tout le monde, parce qu'on ne le connaît pas, on ne les connaît pas. Mais on commence à les connaître. Il est différent de moi. Il fait quelque chose d'autre que moi. Est-ce que je peux le recevoir? Est-ce que je peux vivre avec lui? Est-ce que je peux adorer avec lui? Est-ce que je peux me rassembler avec lui? Est-ce que je peux pas seulement coexister, mais avoir de la communion avec lui? Il prie différemment de moi. N'est-ce pas? C'est pas facile. Mais ce qui peut nous aider, ce qui nous aide, n'est-ce pas? Et c'est ça là. Quand nous prenons position, c'est comme le jour où nous avons cru au Seigneur. Nous avons pris position. Nous sommes pour le Seigneur. Nous avons été baptisés. Le baptême est un témoignage. N'est-ce pas? Au monde, à nos amis, à notre famille, à nos camarades, aux anges, à tout le monde, que nous avons été séparés. Et ça, c'est notre salut. Le baptême, n'est-ce pas? C'est ce qui nous sauve. Le témoignage. Ça ne veut pas dire que nous ne péchons plus. Non. Mais ayant pris position, il y a un mur, il y a un fossé, n'est-ce pas, qui nous sépare. Et donc, de là, nous pouvons avancer. Et tous les obstacles qui vont se présenter à nous, n'est-ce pas, nous serons dans la position de les confronter. Mais si nous n'avons pas pris position, je vous dis, ce sera très très facile. Le monde va facilement nous avaler. Voilà pourquoi tout chrétien, n'est-ce pas? Un jeune chrétien, il doit apprendre à faire deux choses. D'abord, il doit être baptisé. Ça, c'est crucial. Deuxièmement, il doit témoigner. Il doit témoigner à ses amis, à sa famille, qu'il est chrétien. Sinon, s'il reste un chrétien secret, il aura du mal. Parce qu'il ne pourra pas, n'est-ce pas, s'opposer à l'attaque de l'ennemi. La tentation, viens, on sort vendredi soir à la barre. On va boire quelques coups. Il ne pourra pas résister. Mais quand il dira à ses camarades, non, je suis différent. Mes amis, maintenant j'ai un autre maître. Je ne peux pas faire les choses que je faisais avant. Il y a une séparation. On ne va plus lui demander. Vous voyez? Donc, et c'est pareil avec l'Église. Quand nous prenons position, nous donnons au Seigneur l'opportunité d'œuvrer. L'opportunité de nous, d'œuvrer en nous. Parce que une chose est claire, tout ce que le Seigneur a reçu, je dois les recevoir. Ah, mais pas ce frein-là. Mais si j'ai pris position, le Seigneur va œuvrer en moi.
Amen.
Même ce frère-là. Oui, tous les autres frères, mais ce frère-là, non, je pas. Seigneur, j'ai du mal. Mais le Seigneur va œuvrer. Il va nous toucher. Alors, les enfants d'Israël, je me devance un peu, parce que c'est pas le message, ça va. Quand les enfants d'Israël sont retournés à Jérusalem, il fallait retourner à Jérusalem. Ils étaient en Babylone. Ils ont même adoré Dieu en Babylone, dans les synagogues. N'est-ce pas? C'était la façon juive, n'est-ce pas? Ils ont construit des synagogues jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? C'est là où ils adorent Dieu, parce qu'il n'y a pas de temple. Le temple n'a pas encore été reconstruit. Mais tous les matériaux sont prêts. Ok, ça c'est... Bon, mais... Ils pouvaient adorer Dieu en Babylone, mais quand c'était le temps de retourner, Dieu a dit à travers Cyrus, et on va vous parler de lui plus tard, il est très intéressant, tous ceux dont Dieu avait réveillé l'esprit qui se lève pour retourner à Jérusalem pour reconstruire la maison de son Dieu. Vous voyez, combien sont retournés parmi quoi? J'essaie de trouver le nombre de Juifs qui étaient en Babylone et en Assyrie et partout en Perse, parce que au moment où l'appel a été fait, c'était l'empire perse, n'est-ce pas? Peut-être quelques millions. Parce que 2 millions étaient sortis de l'Égypte, plus de 2 millions, n'est-ce pas? Et 400 ans plus tard, au moins, combien? Ah! La population d'Abidjan, je ne sais pas. Combien ici? 6 millions. Je ne sais pas. C'est peut-être moins de 6, mais combien sont retournés? Presque 50 000. Un peu moins de 50 000 personnes. Donc un tout petit pourcentage. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va répondre à l'appel. Mais ceux qui voient la volonté du Seigneur et ceux qui sont prêts à faire quelque chose, à prendre position, vont répondre. Et, intéressant de voir que il n'y avait aucune condamnation des autres qui sont restés, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, Dieu est souverain, n'est-ce pas? Vous lisez Esther, elle était là. Esther était après, chronologiquement, après Esdras. Oui, n'est-ce pas? Elle était en captivité. Mardoché, voilà, Mardoché était en captivité, n'est-ce pas? Né à Esdras, il est revenu plus tard, pendant le deuxième retour. Néhémie, il est retourné pendant le troisième. Daniel, il n'est pas revenu, mais il était âgé, n'est-ce pas? Ézéchiel, on ne sait pas si est-ce qu'il est revenu, n'est-ce pas? Voyez, donc, mais ceux qui sont retournés, ils ont répondu. Donc, c'est pas une question de critiquer, de dire ben pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de... Si vous avez raison. Et voilà une question. Si vous avez raison. Est-ce que tout le monde attend? Vous voyez? Non, il ne s'agit pas de qui a tort ou de qui a raison. Ils ont leur Seigneur. Chaque croyant a son Seigneur. Il doit répondre au Seigneur. Moi, j'ai mon Seigneur. Donc, je dois lui répondre. N'est-ce pas, comme Paul le dit, à son propre maître, il va, n'est-ce pas, rendre compte, il va être responsable. Soit il va tomber, soit il va, n'est-ce pas, être levé. Donc, je laisse les autres. Mais, quelle est ma réponse? Qu'est-ce que moi j'ai vu? Et si j'ai vu quelque chose, est-ce que je suis fidèle à ce que j'ai vu? Le Seigneur a demandé à Pierre, qui dis-tu que je suis? D'abord, n'est-ce pas, que disent les autres de moi? Ok, tu es ça, ok, d'accord. Maintenant, que dis-toi, que dis-tu que je suis? Voilà la question, que dis-tu? Bon, ça doit être une réponse personnelle, n'est-ce pas? Et une position personnelle. Je prends position parce que j'ai vu quelque chose. Pourquoi est-ce que les autres n'ont pas pris position? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Et mais effectivement, je ne vois pas la différence entre ça et je suis chrétien, j'ai cru au Seigneur. Ben pourquoi est-ce que les autres n'ont pas cru au Seigneur? N'est-ce pas? C'est la même question. Je ne sais pas. Mais moi, je crois au Seigneur.
Amen.
Amen. Et si j'ai l'opportunité, je vais prêcher l'évangile à quiconque pour que eux, ils croient au Seigneur. De la même façon, je vais parler, parler de la vision de l'Église, Christ de l'Église aux autres, s'ils veulent m'écouter, n'est-ce pas? Je suis prêt à en parler, n'est-ce pas? Mais je ne force personne. Tout le monde a son choix, mais tout ce que nous pouvons faire, c'est que le Seigneur doit d'abord nous parler et ensuite il peut parler aux autres à travers la parole. La parole est très claire. À ceux qui disent nous sommes pour telle ou telle chose, nous sommes pour telle ou telle dénomination, je dis ok. Voilà la Bible. Montrez-moi dans la Bible où c'est écrit. De quelle dénomination parlez-vous? Ok, montre-moi. Ah, mais ça c'était au début. Maintenant, les choses ont changé. Voilà, c'est ça. Ok. D'accord, les choses ont changé. Est-ce que vous êtes satisfait? Ou est-ce que vous voulez retourner à ce que Dieu veut? Moi, je veux retourner à ce que Dieu veut. C'est comme, n'est-ce pas, les pharisiens, ils ont dit au Seigneur, « Ah, Moïse, il a permis le divorce. » N'est-ce pas, il a même, tu pouvais écrire, n'est-ce pas? Oui, dis-moi. Le Seigneur a dit, « Oui, mais... » Au début, c'était pas comme ça. À cause de l'endurcissement de vos cœurs, Moïse l'a permis. Est-ce que nous voulons ça? Oui, nous voulons le début. Amen. Remonter au début. Que veut Dieu? Donc, oh là là, le temps passe vite. J'ai à peine commencé, donc. Non, c'est... Alors, ok. Amen. Mais, voilà, je... Vous voyez, parfois, il y a des gens, parfois, on nous accuse. On m'accuse, c'est pas. Ah, toi tu es. Tu nous critiques, n'est-ce pas? Tu penses que toi tu as raison. Tu penses que toi tu es la seule église. Et que nous ne sommes pas l'église. Dis non, non. C'est pas une question de nous sommes l'église, l'église est. Et que vous ne l'êtes pas. Non, l'église, ce n'est même pas un nom. L'Église est une description de ce que nous sommes. Donc, l'Église, c'est tous les croyants. L'Église à Abidjan, n'est-ce pas, comporte tous les croyants à Abidjan. Malgré les dénominations, peu importe ce qu'on s'appelle, tous les croyants, les vrais croyants, font partie de l'Église d'Abidjan. Et moi aussi, j'en fais partie. Voilà. Alors, donc, ça c'est la vision, n'est-ce pas ? le témoignage du Seigneur dans une ville. Mais où est-ce que le Seigneur est exprimé? C'est ça la deuxième question. Oui, l'église à Abidjan, n'est-ce pas, comporte tous les croyants. Mais deuxième question, sur quel terrain? Il faut un terrain, un site, n'est-ce pas? L'église n'est pas une église dans l'air. C'est dans l'air, non. Elle est très pratique. Dieu veut une expression visible sur la terre, dans une ville, parce que c'est comme ça qu'il a divisé les croyants. Le seul critère de division, c'est géographique. Et c'est par ville. Bon, voilà, et donc parfois c'est parfois difficile de savoir qu'est-ce qui est une ville, qu'est-ce qui est un village. Bon, mais ça c'est peu importe, c'est, n'est-ce pas, village, ville, arrondissement, si un arrondissement est une unité séparée, comme à Montréal autrefois. À Montréal, consistait en... il y avait des arrondissements avec une mairie individuelle. N'est-ce pas? Mais, donc, à l'époque, on pouvait, n'est-ce pas, on pouvait dire que un arrondissement, c'était une ville ou une entité séparée. Maintenant, on les a tous rassemblés. Donc, bon. Mais le point, c'est que géographiquement, c'est le seul critère de division, si on peut utiliser ce mot. Et donc, il faut un site, il faut un terrain pour exprimer l'unité. Et ça, c'est le terrain de l'unité. C'est sur ce terrain que tous les croyants devraient se rassembler. Et si nous avons vu quelque chose, ceux qui ont vu quelque chose veulent se rassembler en tant que frères et sœurs sur le terrain de l'unité. N'est-ce pas? Toujours conscient que l'Église, c'est tous les croyants. Alors, tous ceux à Abidjan qui sont croyants peuvent se rassembler sur le terrain de l'unité. Est-ce que nous sommes les seuls croyants à Abidjan qui se rassemblent sur le terrain de l'unité? Nous ne savons pas. Il peut y en avoir d'autres que nous ignorons, n'est-ce pas? Le Seigneur les connaît. Donc, 2 Timothée 2, n'est-ce pas? Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Nous ne les connaissons pas. Mais, est-ce que quelqu'un a une pièce de monnaie ou... Ah, merci. Ok. Voilà, n'est-ce pas? Il y a deux faces, n'est-ce pas? Voilà. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ça, c'est une face. Mais l'autre face, ceux qui invoquent le nom du Seigneur, qui s'éloignent de l'iniquité. Donc, une face, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ça veut dire que à Abidjan, il peut y avoir beaucoup de chrétiens qui voient, n'est-ce pas, quelque chose et qui essayent de se rassembler. Et je prie que notre prière, c'est que le Seigneur nous amène envers eux. Et même nous avons, n'est-ce pas, nous en connaissons quelques-uns, n'est-ce pas? Voilà. Ça, c'est entre le Seigneur les connaît. N'est-ce pas? Et au fur et à mesure que le Seigneur nous amène vers ces autres, ou les amène vers nous, nous allons les connaître. Mais la deuxième face, l'autre face, c'est tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur, qu'ils s'éloignent de l'iniquité. Ça veut dire que j'ai une responsabilité. Si moi, j'invoque le nom du Seigneur, je dois m'éloigner de l'iniquité, de ceux qui l'offensent, de ceux qui ne lui plaisent pas. Et donc la question c'est, est-ce que les divisions, la Babylone, n'est-ce pas, les divisions, est-ce que ça plaît au Seigneur? Ah, mais je suis là depuis des années. Non, mais ça, c'est pas la question. Ah, je suis même pasteur. Je fais quelque chose là-bas. Non, c'est pas la question. La question, c'est, est-ce que ça plaît au Seigneur? Et si on peut répondre à cette question, c'est un bon début. N'est-ce pas? Ah, je suis là depuis... mon père, il était, n'est-ce pas, il était là, moi je suis là, je... Oui, ça, mais ça c'est pas la question. Ça c'est... Est-ce que vous avez vu quelque chose? C'est comme le salut. N'est-ce pas, je compare ça avec le salut. Ah, mes parents, ma famille... ont adoré des idoles, ça. Comment, moi aussi, non. Est-ce que toi, tu as vu Dieu, le vrai Dieu? Si toi, tu as le vrai Dieu t'a apparu, est-ce que tu l'as vu? Ah, mais je ne peux pas, je vais offenser. Non, c'est pas la question. Est-ce que toi, tu as vu le vrai Dieu? Oui ou non? Oui. Voilà. N'est-ce pas? Je m'arrête là. Tu sais quoi faire. Donc, voilà, ça c'est... oui, merci. Ça c'est un peu, n'est-ce pas, les deux côtés. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Oui, nous, on les ignore, on ne le connaît pas. Mais, d'autre part, ceux qui invoquent le nom du Seigneur, qui s'éloignent de l'iniquité. La Babylone. Ah, ok. Peut-être demain. Ah, ok. 4 heures moins le quart. 4 heures. Ok. Peut-être quelques. Mais on peut même, quand même, juste, je voudrais aborder un peu la Grande Babylone, n'est-ce pas? Parce que la Grande Babylone dans Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible. Vous voyez, dans la Genèse, il y a de la semence. N'est-ce pas? Il y a des choses qui sont semées dans la Genèse et qui poussent tout au long de la Bible et qui se réalisent ou se fructifient dans Apocalypse, qui est la réalisation, l'accomplissement de la parole des promesses de Dieu. Donc, Babel, dans la Genèse, n'est-ce pas, évolue pendant la Bible. Nous avons vu, n'est-ce pas, Jéroboam, Nebuchadnezzar. Il y a d'autres passages aussi. Matthieu chapitre 13, il y a, n'est-ce pas, l'arbre. Comment s'appelle cet arbre? Yeah, the mustard. Attendez. C'est là. La graine. Okay. Oui, oui. Oui, un grain de Sénévé. Oui, voilà. Qui est un petit arbre, mais qui a poussé jusqu'à ce qu'elle soit devenue un grand arbre, avec des branches là où les oiseaux ont pu faire leur nid, n'est-ce pas? Bon. Donc, quelque chose d'anormal, quelque chose de petit, n'est-ce pas, qui est devenu grand. Quelque chose de pur qui est devenu corrompu. Mais il y a des gens qui regardent ça comme positif, n'est-ce pas, parce que ça héberge les oiseaux, n'est-ce pas. Donc, bon, mais quand même, c'est quelque chose d'anormal. C'est quelque chose qui pousse contrairement à la nature de Dieu. Oui. Mais si vous lisez des écrivains, n'est-ce pas, là, vous trouverez deux avis différents, n'est-ce pas. Mais selon le fardeau du Seigneur, surtout par rapport à la femme, n'est-ce pas, qui a mis trois mesures de farine, et puis elle a ajouté du levain. Et n'est-ce pas, toute la pâte est devenue corrompue et enflée. C'est ça. Donc ces deux paraboles, n'est-ce pas, ensemble, si on les met ensemble, vous voyez, vous avez l'aspect, n'est-ce pas, l'aspect négatif de l'Église, ou la corruption de l'Église pure, purement pour Christ, corrompue, n'est-ce pas, pour devenir autre chose. Voilà. Bon, mais si vous voyez l'évolution, n'est-ce pas, éventuellement, dans Apocalypse, vous avez la Grande Babylone, qui est un mystère de la Grande Babylone. Vous voyez, ce n'est pas seulement la Grande Babylone, mais c'est mystère, quoi, mystère des mystères, n'est-ce pas, mystère de la Grande Babylone. Un mystère, oui, un mystère, Babylone la Grande. Elle s'est développée. Et elle est comparée, n'est-ce pas, c'est quoi, c'est une femme, n'est-ce pas. Apocalypse chapitre 17, verset 3, verset 4. Elle est devenue un système, un grand système, mélangé, un mélange. Ah. Quelque chose d'or, paré d'or, de pierres précieuses et de perles, mais rempli d'abominations, d'impureté et de prostitution. Bon, vous allez demander, mais qui est cette femme? Qui est cette... C'est quoi? Ok. Bon.
Son front était écrit un nom, un mystère.
Oui.
Babylone la Grande.
Oui.
Les impudiques et les abominations de la terre.
Oui.
Je vous ai parti du sang des saints et du sang des démons de Jésus.
Amen.
Et en la voyant, je puis saisir les grands établissements.
Oui.
Et l'ange dit, pourquoi tu es Dieu? de tirer le mystère de la femme qui est la paix, la faute, qui a le Saint-Esprit qui est plus fort.
Amen. Donc, l'ange explique, il continue, n'est-ce pas? Il explique, il décrit. Bon. Et je peux vous dire, ok, ça c'est historiquement, si vous voyez l'Église catholique, ok, elle se ressemble à ça. C'est-à-dire que l'aspect spirituel dans le chapitre 17 et l'aspect matériel dans le chapitre 18. Et sa description, n'est-ce pas, l'adoration de Marie, la femme, n'est-ce pas, c'est tout le mélange, même le sang des martyrs, des témoins, n'est-ce pas, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Combien de fois, combien de témoins ont été martyrisés, n'est-ce pas? Oh, c'est incroyable. À travers l'histoire, n'est-ce pas? Le système de hiérarchie, n'est-ce pas? Avec le pape, avec les cardinaux, avec les évêques, avec. Mais en même temps, quelque chose de Dieu. Vous voyez? Alors, il faut toujours, il faut admettre, il y a quelque chose de Dieu, il y a quelque chose d'or, de pierre précieuse. N'est-ce pas?
Hein?
Oui, il y a même ils sont et il faut les apprécier en même temps parce que même par exemple concernant aux États-Unis, n'est-ce pas, les deux choses qui sont bon, surtout l'homosexualité qui est quelque chose de une question, un sujet qui est très très virulent, n'est-ce pas? L'Église catholique s'y oppose. Bon, en général, n'est-ce pas? Bon, mais en ce qui concerne la position, ils s'y opposent. Concernant l'avortement, elle s'y oppose, n'est-ce pas? Donc, il y a oui, même les sœurs, les sœurs, n'est-ce pas? Beaucoup sont très très pieuses, très. Donc, vous voyez, c'est l'homme qui essaie de chercher Dieu, de vivre une vie pour plaire à Dieu. Donc, les moines, n'est-ce pas, les sœurs, ils se sont éloignés du monde pour suivre Dieu. Donc, interdiction de mariage. Oui, qui est contre Dieu. Mais vous voyez d'où ça vient. Un effort de plaire à Dieu. N'est-ce pas? Et Paul n'était pas marié. Mais c'est plus difficile là. Parce que Pierre était marié. Le premier. Bon. Le premier pape, il était marié. Donc, c'est bon. Bon. Ok, en tout cas. En tout cas, c'est pas pour critiquer. Non, je ne veux pas critiquer et j'ai toujours hésité à partager ça parce que ça ne sert pas vraiment à grand chose. Je risque d'offenser des gens, n'est-ce pas? Et c'est pas notre intention, c'est pas notre objectif. Mais on est parfois obligé de. N'est-ce pas, de reconnaître la situation et de reconnaître la corruption. Même la question des richesses. Les richesses. Ah, c'est, n'est-ce pas, on peut dire, bon, le Vatican, n'est-ce pas, peut-être la ville, l'entité la plus riche du monde. Ah, vous ne pouvez pas imaginer, n'est-ce pas? Tout ça, ah, Dieu va juger. Mais la question c'est, ok, ça c'est un peu pour que nous puissions reconnaître, mais ce n'est pas pour attaquer, ce n'est pas pour critiquer, non, c'est pour reconnaître ce qui peut être en nous. Alors donc, l'appel dans Apocalypse, chapitre 17, 18, verset 4, c'est « Sortez, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Donc, l'appel, c'est pour nous, n'est-ce pas, de sortir du milieu d'elle. Ça veut dire qu'il se peut que moi, je sois au milieu d'elle. Même, je suis sorti, j'ai pris position pour le Seigneur, mais ces choses sont en moi. Ah. Même l'amour de l'argent, des richesses. Ah. Ah, j'en ai pas beaucoup. Alors, comment est-ce que je peux aimer l'argent? Non, mais on peut. Ah, c'est l'amour, n'est-ce pas? De l'argent. Pas l'argent, mais l'amour, n'est-ce pas? Donc, la confiance dans l'argent. Chapitre 18. On n'a pas lu tout le chapitre. Mais j'ai surligné combien de fois, donc 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois le mot pleurer ou lamenter est utilisé. Les gens qui pleurent. Oh, cette ville, grande Babylone, elle est tombée. Les marchands, les navires, les. Enfin, ils perdent tout et on pleure 5 fois. Vous voyez, on va pleurer. On pleure la perte. Des choses comme ça. Mais il viendra un jour où nous aurons de quoi pleurer. Beaucoup plus sérieux que la perte. N'est-ce pas? Et ça sera le jour du jugement. Pas au trône blanc, n'est-ce pas? Parce que si nous sommes tous croyants, mais nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Et c'est à ce moment-là que nous allons, n'est-ce pas, rendre compte de tout ce que nous aurons fait dans le corps, n'est-ce pas, bon ou mauvais. Et à ce moment-là, il y aura soit une récompense, soit une perte, n'est-ce pas? Et donc, ce jour-là, et moi j'ai peur, parce que je ne sais pas si, n'est-ce pas, je recevrai une récompense ou si je pleurerai. Et il y aura grincement dedans, n'est-ce pas? Ça veut dire lamentation, lamenter. Ah, les années ou les jours ou les temps, les occasions, les opportunités que j'ai ratées pour gagner le Seigneur, pour me débarrasser, d'être touché par le Seigneur de tout ce qui était en moi, de la Babylone en moi. Seigneur, ah, si seulement je t'avais permis d'œuvrer en moi, de me toucher. Mais non, j'ai fui. Ah, je me suis éloigné. Je ne voulais pas être touché. J'aurai des regrets ce jour-là. Et je ne veux pas de regrets. Donc, dès maintenant, à partir d'aujourd'hui, je voudrais vivre une vie qui donne au Seigneur, n'est-ce pas, le terrain, l'opportunité d'œuvrer en moi, de toucher toutes ces choses. Comme on disait ce matin, tu disais, n'est-ce pas, on ne peut pas. Est-ce que je peux, est-ce que nous pouvons nous débarrasser de tout? Non, on ne peut pas. Mais on peut être ouvert au Seigneur.
Amen.
On peut. Ne quittez pas le Seigneur. Permettez au Seigneur de nous toucher.
Amen.
Nous, on ne peut pas s'en débarrasser. Mais le Seigneur, c'est le Seigneur qui peut le faire. Restons avec lui. N'est-ce pas? Venons à lui. Permettons-lui, n'est-ce pas, de faire son œuvre en nous. Amen. C'est un peu le fardeau.
Je m'excuse, on a passé, oui, je sais.